Le 1er décembre, ils sont plusieurs dizaines, avocats, magistrats, représentants d'ONG, défenseurs des droits humains, à assister symboliquement à l'enterrement de l'état de droit. Mais que dénoncent-ils précisément ? On va prendre 45 minutes pour remonter aux sources d'un problème qui interroge en profondeur notre politique d'asile, le regard aussi que nous avons sur la migration. Première étape, avenue du port, le long du canal à Bruxelles. On est à quelques centaines de mètres de Tour et Taxi, un lieu vers lequel convergent chaque jour beaucoup, beaucoup de personnes qui voudraient trouver asile en Belgique. Nous sommes au hub humanitaire, plus précisément, dans les bâtiments d'un ancien garage automobile qui a des allures de ruche bourdonnante, et l'on y retrouve Clotilde Botson, l'une des coordinatrices opérationnelles du hub. Ouais.
Donc le hub humanitaire, c'est un consortium de 5 organisations. Il y a Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, la Croix-Rouge de Belgique, SOS Jeunes et la Plateforme Citoyenne pour les Réfugiés. Il a été créé en 2017, au moment de la suite à la crise, Parc Maximilien, etc. À la base pour un public qui sont des personnes, des migrants en transit ou d'autres personnes dans des situations d'errance à Bruxelles. On s'est déplacé ici, avenue du Port, en 2019. Il y a également un centre de distribution alimentaire qui a vu le jour et qui était géré par la Croix-Rouge de Belgique en 2020. Et là, depuis un an, les deux entités sont vraiment fusionnées. Donc maintenant, le hub humanitaire, c'est toujours ces 5 organisations avec un centre de jour qui est ouvert 7 jours sur 7, avec 2 distributions alimentaires par jour. Ces distributions alimentaires, elles sont faites par des collectifs citoyens et d'autres associations. Et 4 fois par semaine, des services plus spécialisés qui sont ouverts aux bénéficiaires, consultations médicales, psychologique, juridique, distribution de vêtements.
Et on peut visiter du coup un peu les lieux ?
Bien sûr. Mais du coup, là, je vous emmène d'abord dans la cantine. Ouais. On a donc, comme je vous disais, là, on est sur le temps de midi. On distribue en général en moyenne au moins 500 repas. Ici. Donc ici, on est devant la cantine. Alors le système, c'est qu'on a un système de fils à l'intérieur et puis à l'extérieur pour justement gérer le flux des personnes et pour essayer que ça se passe de la manière la plus sereine possible, la distribution de repas. Ils peuvent rester à l'intérieur pour manger ou aller directement à l'extérieur s'ils ont d'autres rendez-vous aussi.
À l'intérieur du réfectoire, quelques dizaines de tréteaux ont été installés et attablés tout autour, des hommes surtout, en train de manger le contenu du sachet repas préparé par les ONG. Dehors, il y a encore des dizaines de migrants qui font la file dans le calme. Une longue file qui serpente entre des barrières nadars. Tous attendent de recevoir leur repas, ainsi qu'un thé ou un café qui réchauffe. Le stand du thé est particulièrement prisé, vu les températures qui ne cessent de baisser ces derniers jours.
Alors attendez, je vais vous donner... Je peux préparer.
Allez.
Merci.
Et bonne journée.
Bonne journée à vous, monsieur.
Un peu plus loin, de l'autre côté de la cour, dans une autre partie de l'ancien garage, une grande salle, encore en bonne partie vide à cette heure-là, on est en début d'après-midi. J'en profite pour aller à la rencontre de quelques demandeurs d'asile présents, mais nouer le contact n'est pas toujours simple. Certains se méfient, puis il y a la barrière de la langue. Une travailleuse humanitaire accepte de me traduire un peu d'ourdou afin que je puisse parler avec un jeune homme d'une vingtaine d'années, originaire d'Afghanistan.
Where are you come from?
Afghanistan.
Il a fui le régime des talibans et cela fait un an et un mois qu'il est sur le sol belge.
And where do you sleep for tonight?
Aaj raat kahan soge?
Bus stop.
On the bus stop. Ek hi jagah sote ho har raat? Yes, every night is the same place.
Et cette nuit, comme la précédente ou comme la suivante, il va dormir dans un arrêt de bus.
Aur koi jagah to nahi hai is tarah ka hamara bhai ya behan ya koi ghar.
Malgré une demande d'asile déposée à l'Office des étrangers, il n'y a pas de place dans un centre pour lui. Et plus que la colère, c'est la peur qui domine. Un sentiment d'insécurité quand il s'agit de dormir seul, avec parfois des bagarres qui éclatent. Un peu plus loin, Un autre jeune homme accepte de témoigner. Il m'explique qu'il a 18 ans et qu'il a fui, lui, la Syrie.
Syrie.
Et vous êtes ici depuis combien de temps ?
Comme ça, la petite morte, ici, non ?
Trois mois.
Trois mois.
Vous avez fait une demande d'asile enregistrée à l'Office des étrangers ?
Madame,
j'ai déjà demandé asile. Et les hommes, j'étais dans le riz.
Et donc là, ce soir, par exemple, vous dormez où ?
Allez, là, maintenant, Fenterwood. Maintenant.
Le chien, le hadaïk,
le jardin, sur le riz, parc.
Il n'y a pas de solution nulle part pour dormir à l'intérieur.
Il n'y a pas de solution jusqu'à maintenant. Il n'y a aucune solution. Toujours, elle dit il n'y a pas de place, il n'y a pas de place.
Et vous êtes seul ici ?
Je suis seul. Je n'ai aucune famille.
Et là, il fait déjà froid, mais ce n'est pas encore vraiment l'hiver. Vous avez peur de ce qui arrive là pour la suite ?
Je suis le bard, le bard est le bard, le bard est le bard. Le bard est le bard. Bien sûr. J'ai peur. Là, on va être malade. Je suis dehors. Je suis vulnérable. Peut-être que je peux être malade.
En matière de santé physique, de santé mentale, les professionnels et les bénévoles du centre humanitaire sont particulièrement inquiets. En compagnie de Clotilde Botson, toujours, nous grimpons quelques étages pour aller dans la partie du bâtiment où se tiennent justement les consultations médicales. Et quelques minutes avant que les premiers patients n'arrivent, j'ai l'occasion de m'entretenir avec Steven.
Ça te dérange pas ? Moi, c'est Steven Mulligan. Je suis infirmier social avec Médecins du Monde, ici au Hub.
Et votre boulot ici, c'est quoi ?
On s'occupe de tout ce qui est problème de santé pour les demandes d'asile et les gens en transit.
Qu'est-ce que vous constatez alors principalement ici dans les problèmes médicaux que vous avez à gérer au quotidien dans le centre ?
Pour le moment, on a beaucoup de demandes parce qu'il y a des gens qui souffrent d'être dans la rue. Donc on a une grande population qui sont idos dans la rue. Ils souffrent de toutes sortes de mal à cause de ça. Certains, ils ont des blessures par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur pays au long du trajet. Ils vivent dehors dans le froid et dans l'humidité. Cela aggrave le problème. Donc, pour le moment, on a énormément de gens qui viennent pour certains problèmes de santé, mais qui sont aggravés à cause de la situation actuelle.
Vous êtes inquiet, justement. Vous craignez qu'on ait des drames demain s'il n'y a pas de mesures qui sont prises, du fait justement que les températures vont sans doute baisser encore au fil du temps et qu'on voit qu'il n'y a pas de solution structurelle qui se met en place.
J'ai déjà eu le cas de quelqu'un qui était en hypothermie et ici on n'est pas encore dans le plus froid de l'hiver. Donc je suis très inquiet par rapport à ça. Je pense qu'on risque d'avoir des décès avec la situation actuelle.
Avec le réseau bruxellois, en fait.
Le hub humanitaire essaie, tant bien que mal, de bricoler les solutions pour ceux qui doivent dormir dans la rue. Au premier étage, par exemple, les demandeurs d'asile peuvent embarquer quelques couvertures, des chaussures ou encore des vêtements chauds.
Donc ici, vous voyez, les bénéficiaires vont arriver par ce côté-là. On leur donne un casier et ils vont ensuite pouvoir faire le tour. C'est comme un magasin de vêtements. On a des bénévoles qui gèrent différentes tailles de chaussures, de vêtements. Il y a une application dans laquelle on enregistre ce qu'ils ont mis dans leur panier pour éviter que ce soit toujours les mêmes personnes qui viennent et puis qui prennent trois paires de chaussures. Donc c'est pour être le plus équitable possible. Donc voilà, ça c'est donc la distribution de vêtements pour hommes qui a lieu trois fois par semaine. Donc ici, les gens font le tour.
Il y a aussi là la possibilité de rencontrer un ou une assistante sociale, une avocate pour comprendre ses droits. Chaque jour, ce sont des centaines de migrants, dont beaucoup de demandeurs d'asile, qui viennent chercher comme cela un peu de chaleur dans tous les sens du terme.
Ah oui.
Oui, vous formez, ouais. Pardon. Non, vous pouvez faire la chaleur. Tant qu'à faire.
C'est peut-être l'occasion de rappeler un élément important. Quand je parle de demandeurs d'asile, cela désigne un statut bien précis. Ce sont des personnes qui sont allées à l'Office des étrangers déposer une demande d'asile, une demande à pouvoir s'installer sur le sol belge. Et pendant toute la procédure pendant laquelle leur demande est examinée, avant de leur apporter une réponse, eh bien, l'État doit subvenir aux besoins de base de ces demandeurs d'asile, s'assurer qu'ils soient logés, nourris, soignés si besoin. Mais voilà, pour plusieurs milliers d'entre eux, aujourd'hui, l'État n'assume plus cette mission, cette obligation qui est la sienne. Ce qu'on vient de visiter là, c'est un centre de jour, une structure montée par des ONG, financée en partie par la région et par la ville de Bruxelles, qui ouvre ses portes durant la journée. Mais la nuit, beaucoup de ces demandeurs d'asile sont tout simplement livrés à eux-mêmes. Mon collègue Baptiste Tupin a d'ailleurs pu s'en rendre compte lorsqu'il est allé pour un reportage passer toute une soirée avec ses candidats à l'asile, contraints chaque nuit à la débrouille et parfois à dormir carrément dehors, alors pourtant qu'ils sont en règle, qu'ils sont en ordre en termes de droit d'asile.
Oui, ils sont en ordre au niveau de leurs droits et très souvent, ils logent d'ailleurs directement à proximité des lieux où ils peuvent faire valoir ces droits. Donc pour l'instant, ça se passe au boulevard Pacheco, en plein centre de Bruxelles. C'est là que tous les matins, une file se forme pour déposer leur demande d'asile. Et bien souvent, une fois qu'ils n'ont pas obtenu de réponse ou de logement de la part de fait d'asile, et bien dans un premier temps, ils vont rester autour du boulevard Pacheco. Il y a énormément de demandeurs d'asile aussi qui sont toujours autour du Petit Château. C'est là qu'avait lieu l'enregistrement des demandes d'asile jusqu'à la fin de cet été et donc une série de demandeurs d'asile sont restés là. Ils sont assez nombreux. Là, c'est principalement des Afghans qui, pour l'instant, logent littéralement à la rue autour du Petit Château. Donc dans le quartier, il y a le canal. Maintenant, il y a un pont qui enjambe ce canal qui va vers Molenbeek, sur lequel se sont installés une cinquantaine d'hommes afghans sous des bâches, dans des tentes de fortune. C'est quand même assez particulier de voir ça au centre de Bruxelles.
Et puis, vous avez été aussi à Schaarbeek, visiter ce qu'on hésite à appeler un squat ou un camp de réfugiés, pratiquement au cœur de Bruxelles.
C'est comme ça que l'a qualifié la bourgmestre de Schaarbeek, un camp de réfugiés en plein cœur de Bruxelles. En fait, avec le froid qui arrive, il y a des migrants qui se sont organisés et qui ont trouvé à un moment la porte de ce bâtiment vide, un gigantesque bâtiment administratif de 10 000 mètres carré qui devait normalement servir à accueillir des Ukrainiens. Ils ont manifestement profité du fait que les portes étaient ouvertes pendant les travaux et se sont installés petit à petit. Aujourd'hui, ils sont 700 dans ce bâtiment. On ne peut pas jurer que ce soit tous des demandeurs d'asile qui n'ont pas obtenu de logement dans les centres d'accueil normalement prévus à cet effet, mais une grande majorité d'entre eux sont quand même dans ce cas-là et bon, ça a l'avantage d'offrir un toit à ces personnes, mais les conditions ne sont clairement pas idéales. Il n'y a pas assez de sanitaires. La plupart des toilettes sont hors d'usage. Les douches sont clairement insuffisantes pour 700 personnes. Ça n'est pas prévu pour ça, sans compter les aspects de sécurité. Ces gens dorment à une vingtaine dans des petites chambres. Il n'y a rien qui est prévu au niveau des évacuations. C'est clairement pas fait pour ça.
Et c'est très bien illustré d'ailleurs par ce témoignage que Baptiste a pu recueillir dans son reportage au cœur justement de ce palais des droits à Schaarbeek.
Tu peux m'appeler Ernest.
Ernest, d'où venez-vous?
Je viens du Burundi.
Vous êtes ici depuis combien de temps dans ce bâtiment?
Je suis là depuis 3 semaines. Le bâtiment n'a pas de chauffage, n'a pas d'eau potable, nous ne sommes pas soignés, nous ne sommes pas dans les conditions normales de ceux qui cherchent à agir.
Ça vous dérange de me montrer où vous dormez, où vous mangez? Vous pouvez me montrer un peu le bâtiment?
Ok, on y va.
Voilà, ça c'est ici. La chambre que vous partagez avec d'autres hommes?
Ouais.
Vous êtes combien, plus ou moins?
Nous sommes plus ou moins 20 dans une chambre.
Ouais, mais donc c'est une petite pièce hein, d'environ 6 mètres sur 8, je dirais, avec des matelas par terre, et donc c'est ici que vous dormez. Il fait relativement chaud quand même.
On a chaud parce que on est presque entassé, et aussi on a des couvertures. Mais comme l'hiver est sur la porte, vous voyez vous-même que ça sera dur. Ouais.
Mais comment en est-on arrivé à une telle situation ? Puisque le problème pointé est celui d'un manque de place d'accueil, je décide d'aller frapper pour y voir clair à la porte de Fait d'Asile.
Bonjour, Arnaud Richel.
Enchanté. Fait d'Asile, c'est l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile. C'est donc l'organe chargé par l'État d'organiser l'accueil de tous ceux qui sont en cours de procédure. Et Benoît Mancy, porte-parole de l'agence, explique comment l'accueil est censé fonctionner en temps normal.
Alors en fait, en temps normal, c'est le petit château qui est la porte d'entrée du réseau d'accueil de Fait d'Asile. Donc ça veut dire que tout étranger sur le territoire, sur le sol belge, peut déposer une demande de protection. Donc c'est une demande d'asile qui est enregistrée dans les locaux le service de l'Office des étrangers qui est installé dans le petit château, qui est un centre Fait d'Asile. Et donc le début de la procédure d'asile commence normalement à cet endroit-là. Le matin, les portes s'ouvrent, les candidats des réfugiés se présentent, s'enregistrent auprès de l'Office des étrangers et le jour même Fait d'Asile fait un intake social, un intake médical et leur attribue une place d'accueil. Et l'accueil en fait est garanti pendant tout l'examen de la procédure d'asile et prend fin donc au moment où les instances d'asile ont pris une décision finale par rapport à la demande du demandeur.
Ça, c'est donc le principe de base, le fonctionnement normal de l'accueil des demandeurs d'asile chez nous. Sauf qu'aujourd'hui, le réseau est saturé et que plusieurs milliers de personnes, on parle de 2 à 3000 du côté des ONG, sont obligées de dormir dans des rues, sous des ponts, dans des squats et autres abris de fortune.
Oui, il nous manque aujourd'hui des milliers de places. Je pense que pour le mois d'octobre, on avait environ 1500 personnes qui n'ont pas pu être accueillies. Ce sont des personnes qui se trouvent aujourd'hui dans la rue, mais qui ont peut-être aussi trouvé des hébergements via leur propre réseau ou qui ont continué leur route migratoire. Mais c'est vrai que le nombre de places, ça se chiffre en milliers.
Le réseau Fait d'Asile compte aujourd'hui environ 30 000 places. Sa capacité, après avoir été diminuée ces dernières années, a été réaugmentée progressivement ces derniers mois, mais l'offre de places ne suffit pas à répondre à la demande. Et ça, toujours selon Benoît Mancy, c'est lié à plusieurs phénomènes.
Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a d'une part une augmentation des demandes d'asile en Belgique, c'est ce qu'on l'observe depuis plusieurs mois déjà. Donc vous avez une augmentation des entrées, des demandes d'accueil. Et d'un autre côté, vous avez aussi une diminution des sorties. Pour l'expliquer plus concrètement, aujourd'hui, une procédure d'asile, ça dure plus longtemps. Ça dure longtemps. En fait, le séjour dans le réseau d'accueil de Fait d'Asile, il est aujourd'hui de 15-18 mois en moyenne. Ça veut dire qu'en fait, si la procédure d'asile, si la durée de séjour dans notre réseau d'accueil dure longtemps, ça veut dire qu'il n'y a pas de place qui se libère pour les nouveaux arrivants. Et donc, en fait, on a, et c'est comme ça depuis maintenant plusieurs années, hein, on a toujours plus d'entrée que de sortie dans les centres d'accueil. Et à un moment, même si on augmente la capacité d'accueil, même si on fait de notre mieux, en fait, pour installer un maximum de lits, on arrive à la saturation, on n'arrive jamais aujourd'hui à pouvoir accueillir tout le monde. Et donc, on a pour l'instant un besoin de place à très court terme pour pouvoir héberger tout le monde.
Et là, c'est intéressant de s'arrêter un peu et de prendre le temps d'expliquer en détail le fonctionnement de la procédure d'asile chez nous. Quand un migrant veut trouver asile sur notre territoire, c'est d'abord auprès de l'Office des étrangers qu'il va aller déposer une demande de protection internationale. Dans Dans un premier temps, l'Office des étrangers va vérifier si c'est bien la Belgique qui est responsable du traitement de cette demande. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, il faut savoir qu'il y a en Europe un règlement, qu'on appelle le règlement de Dublin, qui définit quel État est responsable d'une demande d'asile. En très résumé, si un migrant arrive en Belgique directement et qu'il y dépose une demande d'asile, c'est bien la Belgique qui est responsable du traitement de cette demande. Si par contre il est entré par un autre pays européen, par exemple la Grèce ou l'Italie, et qu'il a été enregistré là-bas, ou bien qu'on peut prouver qu'il est passé par là, c'est ce pays d'entrée qui est considéré comme responsable du traitement de la demande d'asile. Pareil, si le demandeur d'asile a de la famille légalement établie dans un pays signataire de la Convention de Dublin, c'est ce pays-là qui doit traiter sa demande. Alors forcément, vous allez me dire, c'est un règlement qui fait peser une charge d'accueil bien plus importante sur les pays limitrophes de l'Union européenne. Et c'est le cas, effectivement. Du coup, les autres États sont censés être solidaires, aider les pays limitrophes, voire se répartir l'accueil des demandeurs d'asile. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un fossé énorme et c'est l'objet de marchandages souvent très difficiles, très polémiques entre les États qui essayent souvent d'accueillir le moins de demandeurs d'asile possible. Mais j'en reviens à la procédure. D'abord, l'Office des étrangers vérifie donc quel État est compétent en vertu de la Convention de Dublin. Si c'est la Belgique, alors c'est le CGRA, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, qui hérite de la demande